Radio Okapi.
À la présentation du journal, Bibi Mukonkole.
Okapi.
Les titres de cette édition, opération d'acheminement des ex-combattants FDLR et leurs dépendants à Kisangani. Au total, 217 personnes, dont une cinquantaine d'ex-combattants en provenance du Nord et Sud Kivu sont arrivées ce jeudi à Kisangani à bord de deux avions du gouvernement congolais et de la MONUSCO. Le chef de la MONUSCO estime que ce processus doit être accéléré compte tenu de l'approche de la date du 2 janvier accordée pour le désarmement volontaire des FDLR. Dans ce journal également, la situation des artères de Kinshasa après la forte pluie qui s'est abattue ce matin dans la capitale. Dona Madimba est descendu sur les grandes artères de la ville et nous fait le point dans ce journal. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La première vague des combattants FDLR venus hier de Kanyabayonga a quitté ce jeudi Goma pour Kisangani. C'est dans le cadre du processus de relocalisation initié par le gouvernement congolais avec l'appui de la MONUSCO. Ces combattants FDLR avaient accepté de déposer les armes suite à un processus de désarmement volontaire commencé en mai 2014. Bernard Nyangi pour des précisions.
Un avion cargo MONUSCO a effectué deux vols ce jeudi, l'un à 11h local et le second autour de 14h30 pour acheminer ses combattants à leurs dépendants à Kisangani. C'était en présence des responsables des 3R de la MONUSCO et ceux du service de sécurité congolaise. Ces combattants et leurs dépendants, 90 au total, étaient arrivés hier de Kanyabayonga pour les personnes vulnérables par hélico et les autres par voie terrestre. Ils ont passé la nuit dans la base des 3R de la MONUSCO à Munigi, 10 km au nord de Goma. Le major Foura Amos, un des responsables FDLR qui accompagne cette première vague, a exprimé sa satisfaction par rapport au soutien logistique et sécuritaire apporté par la MONUSCO. Se confiant aux médias locaux avant son départ, il a lancé un appel aux autres combattants FDLR encore hésitants à leur emboîter le pas. Il faut rappeler que 103 ex-combattants FDLR FOCA et 209 de leurs dépendants avaient accepté de s'engager dans ce processus. Ils avaient été cantonnés depuis mai 2014 dans le camp de transit de Kanyabayonga en territoire de Lubero. Goma, Bernardin Ngui, Radio Okapi.
Et au sud Kivu, le premier convoi des combattants FDLR avec leurs dépendants a quitté le camp de transit de Walungu en direction de Kisangani via l'aéroport de Kavumu ce jeudi dans la matinée. Au total, ce sont 125 personnes, parmi lesquelles 25 combattants et 98 dépendants. Un dispositif sécuritaire a été mis en place et assuré par les FARDC et la MONUSCO. Ce sont des véhicules de la MONUSCO qui ont assuré le transport terrestre de Walungu à Kavumu. Les détails avec Jean Kassami.
Ces combattants rwandais des FDLR avec leurs dépendants vont parcourir à peu près 70 km à bord des 5 camions de la MONUSCO avant d'atteindre l'aéroport de Kavumu. Il y a aussi une ambulance destinée au transport des 5 femmes enceintes et aux malades. À Kavumu, un avion affrété par le gouvernement de la République les acheminera à Kisangani. Après la remise et reprise, la responsabilité revient pleinement à l'État congolais jusqu'à la destination. C'est ce que déclare un des responsables de la section 223R de la MONUSCO Bukavu. Selon la même source, le Boeing affrété par le gouvernement va effectuer 4 rotations à raison d'une rotation par jour pour acheminer tous les 308 combattants FDLR et leurs dépendants présents au camp de transit de Walungu. Ils sont là depuis 5 mois et demi. Ce camp de transit pourrait accueillir un autre groupe de combattants FDLR après la réunion d'évaluation de la première phase par l'équipe technique gouvernement MONUSCO FDLR, réunion prévue le 4 décembre prochain. Pour Kavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Le premier groupe des ex-combattants rwandais et leurs dépendants est arrivé donc ce jeudi à Kisangani en provenance du Nord et Sud Kivu à bord de deux avions du gouvernement congolais et de la MONUSCO. Au total, 217 personnes, dont une cinquantaine d'ex-combattants FDLR, des femmes ainsi que des enfants. Le point avec Suzanne Nzobo.
Ces ex-combattants et leurs dépendants sont arrivés en 3 vagues. Ils ont été accueillis par les autorités provinciales, les services spécialisés de renseignement et un des responsables des DD3R de la MONUSCO. Également présents à leur arrivée, quelques membres de la délégation de la SADC venus s'assurer de leurs conditions d'hébergement. Aussitôt arrivés, les services de renseignement ont procédé à leur appel nominal et identification. Ils ont été acheminés par la suite au camp lieutenant général Bauma, leur site d'hébergement temporaire. temporaires à bord de gros bus mis à leur disposition par le gouvernement provincial. Interrogés, certains ex-combattants venus de Goma et de Bukavu ont exprimé leur joie d'avoir quitté la brousse et abandonné les armes. Témoignage.
C'est l'arrivée, mais je ne sais pas comment les choses vont se passer. Es-tu content? Oui, parce que je viens de là où nous étions en guerre. Mais j'ai accepté de déposer les armes pour la recherche de la paix. À mes frères, je leur dis c'est bon, je souhaite que les Nations Unies poursuivent les négociations avec notre pays et ce sera une bonne chose.
D'autres arrivées sont annoncées pour les jours qui viennent.
À ce sujet, justement, le chef de la MONUSCO encourage le processus de transfert des éléments FDLR à Kisangani. Pour Martin Kobler, ce processus doit être accéléré du fait que la date du 2 janvier accordée par la SADC et la CIRGL pour le désarmement volontaire des FDLR approche. Au-delà de cette date, tous les combattants FDLR seront traqués, a précisé Martin Kobler au micro de Michel Kifindangoy.
C'est très important qu'avant le 2 janvier, tous les ex-combattants sont à Kisangani ou au Rwanda par le processus de 2-2-RRR. Mais nous sommes heureux que ça marche maintenant. Mais je dois aussi dire que l'option militaire est sur la table contre ceux qui ne sont pas rendus. Abandonner les armes jusqu'au 2 janvier. Nous sommes en contact avec les FRDC. On finalise les plans de Sukola 2 afin d'être en position, ensemble avec les FRDC, de combattre les FDLR dès le 3 janvier, comme c'est décidé par le gouvernement, par la SADC, par la CIRGL à Luanda.
C'est depuis près d'une semaine que le chef milicien Justin Banaluki Diko Bramatata séjourne à Bunia dans le cadre du processus de sa reddition au FARDC. Cela en attendant que ses hommes, près d'un millier selon lui, regroupés à Aveba, rejoignent le camp de Rwampara dans la périphérie de Bunia. Entre-temps, comment vit-il et comment passe-t-il son séjour en ville? Suivez ce tableau descriptif de Martial Kiza rendu par José Deschartomenga.
Cobra dit vivre en homme libre à Bunia. Il n'est pas aux arrêts concernant à ce que beaucoup pourraient penser, ni encore en résidence surveillée. L'homme est libre de ses mouvements. Il lui arrive de sortir soit au volant d'une jeep mise à sa disposition par le gouvernement, soit à pied. Il a occasionné un accident de circulation sur le boulevard des Libérations il y a quelques jours. À pied, il fait l'objet d'une grande curiosité de la foule qui veut voir à quoi il ressemble. Les indiscrétions rapportent qu'il a même rencontré des membres de sa communauté Ngiti au quartier Kindia ici à Bunia. Hier mercredi, il a même reçu des journalistes en entretien. Il est logé dans une résidence privée au quartier Lumumba, au centre-ville. Il est nourri par le gouvernement, comme il l'a confirmé lui-même à Radio Okapi ce jeudi. Dans cette résidence bien équipée, il a quatre gardes de la police militaire des FRDC. Il y vit avec deux de ses collaborateurs en tenue civile et non armée. Cobra estime qu'il ne manque de rien à Bunia, sauf, argumente-t-il, on ne m'a pas encore donné de l'argent. De quoi dire que le chef rebelle se la coule d'où son ville. Bunia, José Deschartemenga, Radio Okapi.
Kinshasa demeure ce jeudi dans une spirale de pluie et orages. Une pluie commencée très tôt ce matin et qui ne s'est interrompue qu'un moment peu avant midi et ensuite recommencée pour finir en fin d'après-midi. Les conséquences à ce stade ne sont certes pas dramatiques mais suffisamment significatives. Le récit de cette journée pluvieuse avec Donna Madimba.
Effectivement, Kinshasa a eu les pieds dans l'eau tout l'avant-midi d'aujourd'hui. Il s'est mis à pleuvoir autour de 7h ce jeudi et les cordes n'ont arrêté de s'abattre sur la capitale de la RDC qu'autour de midi. Ce n'est certes pas la pire des pluies tombées à Kinshasa, mais ses conséquences sont à signaler. Faible trafic, difficulté de transport, perturbation des activités, surtout celles économiques devenues par conséquent timides. Mais le problème majeur observé aujourd'hui encore demeure la voirie, véritable tendon d'Achille de la capitale de la RDC. De nombreuses rues et avenues se sont ce jeudi une fois encore inondées, Huileries et ses annexes, mais aussi les abords du centre-ville comme le parking extérieur de la banque BCDC Direction Générale. De nombreux éboulements sont même survenus à plusieurs endroits sur l'avenue du tourisme et accès stratégique pour de nombreux quartiers de la partie ouest de Kinshasa avec sérieuses menaces de détruire cette artère.
Voilà, c'est par ici que prend fin cette édition du journal qui a été supervisée par Julien Niamouini et Suzanne Zogo. La mise en onde assurée par Willem Lungamba. Merci à tous de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.